voyage continue à travers l'Inde. Là, on est au centre de l'Inde, à peu près. On est à Bhopal. Et à Bhopal, comme partout ici, eh ben, on est très content de l'arrestation de Saddam Hussein. On sera très content le jour où Ben Laden sera arrêté. Mais il se peut bien que dans ce coin particulier de Bhopal, on ait trouvé un autre terroriste, un grand terroriste. Du moins, si on écoute les habitants de cette ville d'1 600 000 habitants, dont 550 000 sont victimes, ont été victimes de ce qui s'est passé, ici il y a 20 ans, il y a presque 20 ans, c'est-à-dire la catastrophe de Bhopal, cette nuit du 3 décembre 1984, où, à la suite d'une fuite de gaz, toute la population a été intoxiquée. Au total, presque 16 000 morts au cours de la catastrophe ou des suites de la catastrophe, et au total 550 000 victimes. C'est donc une catastrophe considérable. Et pourquoi je parle d'un terroriste? Eh bien, pour les habitants, ici, dans le bidonville, là où nous nous trouvons, qui est juste à côté du site de Union Carbide, là où ça a eu lieu il y a 20 ans, eh bien, pour les habitants, il y a un terroriste qui s'appelle Warren Anderson. Warren Anderson, c'était à l'époque le patron de Union Carbide. Et les gens ici en font le responsable, la figure responsable de cette catastrophe. Ici, autour du bidonville, on trouve des panneaux, des graffitis qui disent « Warren Anderson doit être pendu ». On est très féroce ici contre ce Warren Anderson. Et après tout, bon, on peut comprendre qu'il y a une certaine responsabilité de la part de ce PDG de Union Carbide. D'autant plus que l'un des points les plus terribles, ça a été que la composition du gaz n'a jamais été révélée par Union Carbide au prétexte de secret industriel, propriété industrielle. La composition du gaz n'a jamais été révélée, ce qui évidemment aurait permis de trouver l'antidote et donc de limiter le nombre des victimes. Alors voilà, un cas de terroriste qui vit toujours, il vit quelque part aux États-Unis. Ce serait pas du tout difficile, il n'y aurait pas besoin d'une armée pour l'arrêter. C'est pas la peine d'envoyer l'armée des Indes pour l'arrêter. L'arme de destruction massive, eh ben, elle existe. Elle était là, il y a 20 ans, elle a opéré, elle a fonctionné. Voilà un souci pour ses habitants. Il faut dire qu'aujourd'hui toujours, une vingtaine, trentaine de personnes meurent chaque mois des suites et des séquelles de cette catastrophe. Est-ce qu'on en a tiré les leçons? Ça, c'est autre chose. On continue donc notre voyage à travers l'Inde, mais évidemment, ce sera quelques Indes, parce que le continent est énorme. L'Inde vit dans plusieurs siècles en même temps, nous a dit quelqu'un hier, et ça c'est juste. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ce que nous vivons et ce que nous voyons. Pendant ce temps-là, ça continue, là-bas Sisyphe continue. Aujourd'hui, on retrouve l'Espagne, on retrouve les brigades internationales, on retrouve la mémoire de ceux qui, 60 ans après, en 1996, reviennent sur leur pas, reviennent sur leur foi, reviennent sur sur ce geste formidable qu'ils avaient eu, venu de partout, du monde entier, pour lutter contre le fascisme, lutter contre la monstruosité qui s'était installée en Espagne. Et aujourd'hui, après tout, ici, c'est une autre forme de fascisme, une autre forme de terreur que les gens de ce bidonville, là où je me trouve, combattent toujours 20 ans après.
Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis, en Espagne, avec les anciens des brigades internationales.
Flight number 2, arriving from...
Le sol commençait à trembler. D'un autre grondement sourd qui précédait, qui était l'arrivée des premières brigades internationales, et des premiers régiments véritablement organisés d'Espagne.
Dentier éclatant, à travers la vitre de l'autocar, il rigole, larmes aux yeux, poing levé. Nous ne vous oublierons pas. Et quand l'olivier de la paix fleurira, entrelacé avec les lauriers de la victoire de la République espagnole, revenez, revenez à nos côtés. Ils sont revenus, en Espagne, ces jours-ci, 60 ans après, des quatre coins du monde, ils reviennent pour répondre à l'hommage d'adieu que la Passionaria leur lançait des balcons de Barcelone en octobre 1938. Ils avaient 20 ans, cause perdue, cause toujours, guerre perdue, poings serrés dans les poches. L'Espagne, pour 40 ans, allait retomber, se couvrir d'un immense bâillon, d'une répression féroce, d'une humiliation sourde. 40 ans. Aujourd'hui, à la fenêtre du train pour Barcelone, le vieux John Evans guette longtemps le petit chemin en bas de la montagne, entre la rivière, à l'endroit précis où fut tué son pote Steve, un petit gars de Géorgie. Pourquoi ? Pour qui ? Est-ce que ça valait la peine ? Qui oserait poser la question aujourd'hui ? À part l'histoire, vous êtes l'exemple héroïque de la solidarité et de l'universalité de la démocratie. Cette phrase, ils la connaissent par cœur, chacun dans sa langue. Polonais, hongrois, allemand, anglais, américain, tchèque, suédois, russe, danois, italien et même chinois, ils venaient de plus de 50 pays. Et de France surtout. 10 000 venaient de France sur les 35 000, 40 000 volontaires de tous les pays qui s'engagèrent dans l'épopée espagnole. 5 000 combien au juste, sont morts sous ces oliviers qu'on voit. La terre, ocre d'Espagne, a bu le sang qu'ils venaient donner. Cette terre qui n'était pas la leur. Ils y croyaient, ils avaient 20 ans. Ils étaient d'une sincérité inimaginable aujourd'hui. La légende leur a taillé des costards dans l'étoffe des héros. El hombre que luchó en España, soldat de la légitime justice. Ils incarnent une double mémoire amère et romantique, plus grand parce que vaincu, dit Émile Thémim. Mais qui étaient ces héros ? Le petit gars de Géorgie, le docker de Liverpool, le mineur de Longwy, le rondeur de Genève, l'étudiant de Budapest, le métallo de Varsovie. Que reste-t-il de ces magnifiques ? Malgré toutes les manipulations, toutes les trahisons, toutes les récupérations dont ils furent si souvent victime, que reste-t-il de cette sincérité, la sincérité qui fut la leur, incompréhensible, incompréhensible, aujourd'hui. Pour eux, un journaliste américain, grande gueule, qu'on appelait Ernie, avait trouvé cette phrase de John Donne. Nul homme n'est une île complètement en soi-même. Tout homme est un morceau de continent, une part du tout. Si une parcelle de terrain est emportée par la mer, l'Europe en est lésée, même s'il s'agit d'un promontoire, même s'il s'agit du manoir de tes amis ou du tien propre. La mort de tout homme me diminue, parce que je suis solidaire du genre humain. Ainsi donc, n'envoie jamais demander pour qui sonne le glas, il sonne pour toi.
Ya sabes mi paradero, si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, lucho en el frente de Huesca, primera línea de fuego, lucho en el frente de Huesca, primera línea de fuego. Aunque me
que en el puente y también la pasarela. Aunque en el puente y también la pasarela. Me verás cruzar el Ebro en un barquito de vela. Me verás cruzar el Ebro en un barquito de vela.
Très vieux qui vient de se faire applaudir est porté par des jeunes gens jusqu'à son fauteuil roulant. Il lève le poing avec ses cheveux blancs, il s'assoit dans son fauteuil roulant, il applaudit lui-même.
Vous avez quel âge?
J'ai
18 ans.
Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là?
Pues ha luchado por el país, ¿no? Hombre, yo la verdad es que en esos tiempos no estaba.
Pero... C'est vrai qu'en ce temps-là, j'étais pas là. Hein. Mais ouais. Je sais qu'ils ont lutté pour le pays.
Y nada, y bueno, por mis abuelos, ¿no? Lo sabido, vamos. O sea, no sé, la historia y lo que me han enseñado en el colegio.
Je le fais aussi pour mes grands-parents. J'ai appris l'histoire au lycée. Et voilà, je suis un peu là comme ça, quoi.
Est-ce que vos grands-parents ont été victimes du franquisme?
Mis abuelos, más bien mis bisabuelos.
En fait, pas mes grands-parents, sí. mes arrière-grands-parents plutôt.
Eh ouais, le temps passe.
Il y a un monsieur là qui est avec un drapeau rouge.
Un comrade in matrice. A Spanish comrade.
C'est un camarade espagnol qui m'a offert ça.
The red one.
The red one, yes, of course.
On s'offre des œillets. Pourquoi vous faites ça? Vous offrez un œillet à ce monsieur? Vous êtes très
jeune. Je l'admire parce qu'il a été capable de donner sa vie, un côté de sa vie, pour lutter pour la solidarité.
Ces gens-là vous font rêver?
Non, ces gens me font faire chapeau.
Pourquoi cette guerre d'Espagne continue-t-elle d'occuper une importance aussi exceptionnelle
dans la mémoire, non pas seulement de l'Espagne, non pas seulement de la France, de l'Europe, mais du monde tout entier. Pour Émile Témim, l'idée, c'est qu'il y a eu là la rencontre de Dieu et de la liberté. Il dit, c'était un combat pour la liberté et on ne renonce pas à la liberté. C'était un combat avec Dieu et on ne transige pas avec Dieu. Que reste-t-il aujourd'hui à travers ces survivants des brigades internationales de ce que cette guerre d'Espagne a pu faire lever d'espoir, de désespoir, de réflexion, d'analyse, de mythologie, de légende, etc. Est-ce que c'est seulement un hommage émouvant auquel nous assistons, une belle et superbe nostalgie pour cette sincérité incomparable qui fut celle de ces hommes venus et de ces femmes venus des quatre coins du monde? C'est la question qu'on s'est posée. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Que reste-t-il de hors la nostalgie, au-delà de la nostalgie pour nous aujourd'hui et pour demain, pour notre devenir? Voilà la question avec laquelle on était parti. On va voir, peut-être que derrière les mots, derrière un sourire, derrière une analyse, celle de Vázquez de Montalbán, qu'on va rencontrer, l'écrivain catalan, peut-être qu'on trouvera des choses pour aujourd'hui et pour la suite de l'histoire dont ils furent les acteurs, dont ils furent les héros. Pour l'instant, on est dans le train entre Albacete et Barcelone. Les sont 200 peut-être dans ce train, confortablement installés, ces anciens des brigades, tous autour de 80, un petit peu plus de 80, puisqu'ils avaient 20 ans en 1936. Il y en a un qui était là en 1936 et qui entre au Panthéon en France, à Paris. Il s'appelait Malraux André, c'était un piètre aviateur. Et sur les autobus de France, de Paris, on peut lire cette phrase de Malraux. Les idées ne sont pas faites pour être pensées, mais pour être vécues. Oh là là, alors ça c'est une photo en noir et blanc qui est bouleversante.
Peut-être que tu en connais. C'est tous des Français, là.
Il y en a un qui est une sorte de banjo, il y en a un qui est à l'accordéon.
Il y en a qui sait jouer de la musique.
Il y en a un qui est avec un bouquet de fleurs, il y en a un qui est avec une guitare.
Oh, c'est des bons copains.
Et qui est tous ces gars-là sur cette photo?
C'est à Albacete. C'est à Albacete. Oui, la veste, là, c'est une veste américaine.
Sur le personnage qui est à droite de la photo?
Un jour, au mois de janvier 37... J'avais 100 camions, j'ai emmené une brigade américaine au front de Morata de Tarugna. Et puis je les ai débarqués, on est reparti à Albacete pour chercher le matériel. Alors quand je suis revenu le lendemain soir, j'ai demandé, il y avait un capitaine français qui était là, puis je lui ai dit, voilà... J'ai une douzaine de camions, là ils sont pleins de matériel pour les gars que j'ai emmenés hier. Ils m'ont dit, oh tu peux repartir avec parce qu'ils sont tous morts. En un jour. Alors je suis reparti avec, il y avait des belles vestes, comme moi j'en avais pas, puis les copains aussi. Bon, on a pris une veste. On avait du lait condensé, ça nous...
Suisse,
ça nous...
Nestlé.
Nestlé, oh, je ne sais pas si c'est Nestlé. Parce que Nestlé, c'est une drôle de boîte aussi. Hein.
Oui.
Mais on était contents parce que ça faisait deux mois qu'on avait...
On ne peut pas raconter, parce qu'il y en a qui croient que ce n'est pas possible. Moi, j'ai eu un copain, Genève, qui a joué dans une équipe. Football, parce qu'il était footballeur, il a joué sur le front contre les fascistes. Hein? Une compagnie anarchiste qui a joué contre les fascistes.
Ah, il y a une très belle photo là. Oh là là, il y a un militaire magnifique. Là, ça c'est lui. Oh là là, il est beau. Alors, il est
en uniforme, dans une photo magnifique.
Hein, je suis plus beau que maintenant.
Qu'est-ce que t'en penses, Christina?
Non, moi je trouve que vous êtes aussi beau.
Merci.
Il faut demander aux femmes ça. Oui. Et il est là avec le poing levé, serré.
Ah, mais c'était de bon cœur. Hein.
Ah bah oui, j'en sens doute.
Ah oui. Parce que si je suis venu me battre, c'est que j'en avais envie. Et puis, c'est que j'ai toujours pensé avec la misère que ma famille a eue. Hein, ça me poussait à... J'aurais fait n'importe quoi.
Ouais.
Pour essayer d'améliorer le sort du peuple, de l'ouvrier.
La plupart, au départ, n'étaient pas communistes. Et ceux qui ont commencé spontanément dès le soulèvement militaire de juillet n'étaient pas communistes. Ils étaient contre le fascisme. Voilà, tout d'un coup, il y avait un ennemi clair, hein, ou noir, comme vous voulez, enfin, en tous les cas, très précis, qui se levait. En Espagne, c'était pas aussi brutal que ça. Ça faisait déjà quelques années. Il y avait l'exemple évidemment de l'Italie voisine, où le fascisme était depuis pas mal de temps déjà installé. Il y avait l'exemple de l'Allemagne nazie. Et là, c'était en Espagne. Et donc, on savait le fascisme, voilà l'ennemi. Et puis petit à petit, on sait comment c'est le Parti communiste espagnol qui a organisé ça à travers le Comintern, l'organisation internationale soviétique. Mais il y avait au départ cette spontanéité, il y avait au départ cet élan qu'on retrouve encore aujourd'hui, 60 années plus tard, dans les propos, dans les voix et dans l'humour de ceux que nous rencontrons dans ce train. Il aurait fallu parler à tous. Ils ont tous une destinée, une histoire absolument formidable pour éclairer ce qu'est ce siècle, ce que fut ce siècle. En tout cas, voilà par exemple des Suisses qui ne correspondent pas du tout au chocolat.
Moi, mon père était déjà socialiste. Et nous, on était 13 gosses.
Suisse.
Oui. Dans ma famille, je suis le 12e. Parce qu'on a toujours été dans la misère. Avec 13 gosses. Alors, on a dû s'expatrier en France pour... parce que les gosses, on n'allait plus à l'école. En 1922.
88 ans, vous avez.
En 1922, l'école n'était pas obligatoire en France. Alors on est parti en France. Pendant 2 ans, ça a bien marché. Tous les gosses, on était au boulot. On n'allait pas à l'école. Mais au bout de 2 ans, il y avait chômage. Alors on a vécu 3 ans misérablement. On mangeait du chien et des chats.
Vous avez mangé du chien et du chat, vous?
Ah oui. Ah oui, mon père et moi, on allait tuer. Au village, ils avaient plus d'argent pour nourrir leurs bêtes. Alors ils venaient nous les apporter. On vendait les peaux, 2 sous français, la peau. Et puis le chien un peu plus. Puis alors les meilleurs morceaux, on les prenait pour bouffer, parce qu'autrement, pendant 3 ans, on n'aurait pas pu bouffer.
Quelle époque?
En 1924, 25, 26 et 27. Et on s'est fait rapatrier pour finir, ça allait trop mal. On s'est fait rapatrier à Genève par le consulat. Ils ne pouvaient pas nous foutre dehors parce qu'on avait un contrat illimité au boulot.
Quel boulot?
Dans l'horlogerie. C'était un Suisse qui avait monté une fabrique de pièces détachées pour les montres dans le Jura, oui, à Mèche, dans le département du Doubs. Là, tous les gosses, on allait travailler, ça allait bien.
Quel rapport entre cette enfance difficile et puis l'engagement dans les brigades internationales? En quelques mots.
Moi, j'ai toujours été dans la misère. Là où je travaillais en France, il est venu des gars de Paris, du syndicat. On était 2 copains, on a dit, c'était le samedi soir, on va là voir les Parisiens, le syndicat. Ça s'est bien passé, tout. Mais le lundi matin, quand on est rentré, le Marcel, c'est un patron qui s'appelait Marcel, comme moi, il était à la porte, il dit, toi, tu rentres pas. Bon, je ne savais pas qu'est-ce que, pourquoi. Quand un copain est arrivé, il dit, toi, tu restes là aussi. Puis après, il nous a amenés au bureau. Il nous a mis 15 jours à pied parce qu'on avait été à l'Assemblée des syndicats. Alors tout ça, ça a joué. Ça a aigri le caractère. Hein. Voilà. J'ai toujours milité dans la classe ouvrière pour essayer d'améliorer notre sort. Voilà. En étant dans la misère, je ne pouvais pas
être autrement.
Avec les gros. Voilà. J'étais avec les petits.
Pour la belle, quand elle a soltera, mas de casada te encontraré. Te desnudaré, casada y romera. Cuando la noche las doce ve.
Je suis sûr, c'est une obligation de faire du siège militaire pour la patrie. Et d'interdiction d'aller faire ses à l'étranger. Et au mois d'août 36, le Conseil fédéral suisse a encore fait un décret de plein pouvoir, spécialement pour ne pas prendre au service militaire en Espagne. C'est pour ça, en rentrant, on était enfermé et puni par le tribunal militaire. 150 jours de prison. Et quand on est sorti de prison, on a lu l'ordre de marche parce qu'il y avait déjà la mobilisation, la guerre avait éclaté. Ah. Monsieur Marché, secrétaire du Parti Socialiste, Parti communiste français, quand il a proclamé centralisme démocratique, ça me fait dégueuler quand j'entends des paroles pareilles. Centralisme démocratique, ça ne peut pas exister. Démocratie, c'est pouvoir populaire. C'est pas ça, ça ne peut pas être central, ça peut être partout. C'est le contraire. Mais Marché a répété ça pendant 20 ans dans tous les discours. Et les gens croient. C'était leur Dieu. Malheureux. Les malheureux. Simples Pékin, ouvriers, métallos français qui croient. Marché. Comme moi j'ai cru à Torres.
Trahi. Sentiment de trahison. Pour ce brigadiste des brigades internationales qui, 60 ans après, ces jours-ci, ces jours derniers, revient avec d'autres en Espagne. Alors, l'histoire de ces brigades internationales a été racontée. Ces brigadistes ont été les héros d'un tas de livres. Évidemment, on ne peut pas ne pas évoquer Malraux et Hemingway, mais de beaucoup d'autres. Et c'est vrai que cette guerre d'Espagne a été un rapprochement entre les intellectuels, les artistes, les peintres. Peinture de Miro, peinture de Picasso, pour parler que de ces deux peintres espagnols et catalans. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Il y a des intellectuels français qui se contentent d'être des copies de Malraux. Il y a des intellectuels en Catalogne, qui sont tout à fait singuliers, dont un, Manuel Vázquez Montalbán, qui est là, dans cette salle, où sont réunis des jeunes, des jeunesses, communistes, français, catalans. Hmm? Là, il y a un aéropage tout à fait respectable d'anciens brigadistes qui vont faire des discours, on va lever des verres à l'amitié entre les peuples, etc. Et puis tout au bout, il y a ce petit bonhomme rondouillard qui s'appelle Vasquez Montalban. C'est quelqu'un qui dit ceci. Sous Franco, tout le monde puait des pieds. C'est que si certains intellectuels français se prennent pour Malraux, lui, Vasquez Montalban, il s'est pris pour Franco. Il a essayé de voir comment c'était quand on était Franco, entre autres aventures. Son mot le plus qui lui colle le plus à la peau, c'est corrosif, mais lui, il préfère subversif. Il dit, voilà, je suis quelqu'un de subversif. Évidemment, c'est quelqu'un qui empêche beaucoup d'idées de tourner en rond, c'est-à-dire qu'il fait tout simplement son boulot d'intello dans cette ville de Barcelone, mais bien au-delà.
Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? Vous venez soutenir vos camarades brigadistes?
Nous sommes dans une situation d'une offensive culturelle de la droite plus intelligente qui pratique une stratégie culturelle de destruction de la mémoire historique, de destruction du droit à l'utopie, à l'espoir. Et pour ça, j'aime beaucoup collaborer dans toute revendication de la mémoire, parce que signifie aussi, surtout, par rapport aux brigadistes, récupérer la mémoire d'un acte historique de générosité, de solidarité, aujourd'hui très difficile d'évaluer, parce que nous sommes dans une situation, à une époque de défense surtout des valeurs de l'individualisme, contre tout valeur de la solidarité, une offensive terrible de la culture néolibérale. Pour ça, je crois que revendiquer tout ça que signifie la mémoire historique, surtout un acte d'une importance comme le brigade international, je crois qu'aujourd'hui c'est une contribution positive.
Alors il y a un aspect quand même, il faut bien reconnaître, un peu folklorique dans la salle où nous nous trouvons, un peu désuet, pour tout dire, même si évidemment cette époque a visiblement de très beaux restes, mais est-ce qu'on peut dans tout ça trouver de quoi nourrir une quelconque alternative?
Non, je crois que toute la gauche existante aujourd'hui, c'est une gauche un peu résiduelle. C'est la résultante de différentes gauches de ce siècle. Mais je crois qu'il faut construire une gauche pour le prochain siècle. La construction de gauche pour le prochain siècle, il faut aussi utiliser la gauche réellement existante. Non?
Et tout ça. Il faut faire avec.
Oui, avec ces gauches, mais sans les histoires de division de ces gauches, non, de ces gauches d'aujourd'hui. Parce que chaque morceau de la gauche, il a une logique historique différente, il a un alibi historique différent, et je crois que tout ça conduit à la destruction, à l'inutilité. Non. Surtout dans un moment qu'il existe un bloc de droit terrible, avec une cohésion extraordinaire, avec une prépuissance historique conditionnée pour le succès de la guerre froide. Non. Et, d'avance, front de la droite, un front très cohésionné, très, très fort, la division de la gauche, je crois que exprime aussi un complexe de culpabilité historique, que je crois qu'aujourd'hui il arrive le moment de finir ce complexe de culpabilité historique et reconstruire un espoir de gauche. Mais j'insiste beaucoup que ce sera l'espoir du prochain siècle, pas l'espoir du 20e siècle.
On parle de pensée unique, de brouillard quand même, pas mal dans les idées des jeunes gens. Ces poumons là criaient non pas Saran, non pas Saran, le fascisme ne passera pas. Où est le fascisme aujourd'hui? Où est l'ennemi? Quel est le risque pour la démocratie? La liberté est-elle menacée? Et par quoi? Vasquez Montalban.
Aujourd'hui, l'ennemi n'est pas le fascisme au sens traditionnel, c'est l'autoritarisme. Autoritarisme néolibéral.
Vous diriez un fascisme économique?
Je crois qu'aujourd'hui, il y a un totalitarisme économique. L'expression n'est pas fascisme, c'est un totalitarisme. Mais de ce totalitarisme économique, économiciste, ce sera le mot plus adéquat, non? Dérive un monopole idéologique, parce que nous sommes sous la pression d'un la pensée unique, les partis politiques uniques, la culture unique, toutes ces définitions de politiquement correctes, culturellement correctes, sexuellement correctes, tout ça signifie la proposition d'une vérité unique, l'unification de la vérité, non? Avec la contradiction de toute la théorie, toute la culture du marché, non? Mais il existe un marché théoriquement pluriel, mais pour un produit unique, un produit idéologique unique.
Quand on voit ces jeunes gens qui sont en train de lever le poing avec leurs chansons, etc., il y a quelque chose d'un peu religieux qui moi m'embarrasse un peu. Vous vous accommodez de ça ?
Non, je suis en contre de la militance religieuse. Parce que je crois que le militant religieux, il a contribué beaucoup à fomenter une culture de sacrifice, mais aussi à une incapacité pour l'autocritique. Que je crois que c'est un peu le facteur plus important pour la défaite de la gauche. Pour ça, je crois que autrefois construire une gauche sous la religiosité, je crois, c'est autrefois construire la défaite. Aujourd'hui, il faut construire un sujet historique combattant plus complexe, non? Parce que la classe ouvrière a modifié surtout au pays du capitalisme avancé. Alors, il faut savoir quel secteur de la société, et pas seulement de la société nationale, de la société mondiale, aime les changements, désire les changements, non? Il a envie des changements. Parce que je crois que les changements, c'est un besoin objectif. Mais pour arriver à la proposition de ces besoins objectifs pour tout le monde, il faut développer une conscience critique, par rapport à ces nouveaux sujets historiques des changements. Aujourd'hui, parler des sujets historiques des changements et parler seulement de la classe ouvrière, c'est quoi, que condamné au fracas et condamné à la défaite.
Terra y Libertad, Land and Freedom. Oui. Vous avez vu le film de Ken Loach?
Oui.
Qu'est-ce que vous pensez?
Je crois que c'est un beau film. C'est un film nécessaire pour la pédagogie anti-stalinienne. Dans ce point de vue, c'est un film correct.
Vous avez des voisins à table, vous êtes à la table d'honneur, il y a pas mal de staliniens à côté de vous. Personne n'est parfait.
Mais je crois que le film, c'est un film du point de vue de la rigueur historique, c'est un film très discutable. C'est un film
très discutable.
Discutable. Parce que c'est un film construit trop sous le point de vue anglo-saxon, un point de vue orwellien, d'Orwell. Non?
Qui était dans les brigades Orwell.
Bon, mais il a fait la brigade, le secteur concret des brigadistes, non? Le secteur du POUM. Non? Et il a fait un peu les brigadistes comme un touriste révolutionnaire. Non? Et alors, je crois que le film de Loach, il y a une quelque contamination de ce tourisme révolutionnaire.
Puisque vous parlez de tourisme révolutionnaire, est-ce qu'on peut parler de Malraux et d'Hemingway?
Oui.
Vous commencez par celui que vous voulez.
Oui, deux touristes révolutionnaires, oui.
Oui.
Mais il faut évaluer beaucoup ses contributions symboliques, non? C'est plus important le rôle symbolique de Malraux, le rôle symbolique de Hemingway comme des aidants de la République, collaborateurs de la République. Mais je crois qu'on fait ils ne sont pas des touristes révolutionnaires comme les Pantin de Loup ou comme les autres, comme Willy Brandt, qui sont venus ici pour voir la guerre. Non? Mais Malraux a contribué à organiser l'aviation républicaine. Non? Mais avec une distance historique conditionnée pour le point de vue très intellectualiste de la guerre. Non? Trop intellectualiste de la guerre. Et pour ça, je parle beaucoup de fois que Malraux est un touriste révolutionnaire, mais avec une contribution historique réelle.
Vous auriez pu vous engager, vous, en Bosnie, avec Bernard-Henri Lévy? Vous auriez pu partir avec lui, par exemple?
Non, avec Bernard-Henri Lévy, non. Avec des autres, possiblement. Mais je dis beaucoup de fois que je crois que Bernard-Henri Lévy, c'est un bonsaï. Le bonsaï, c'est un petit arbre. Je crois que Bernard-Henri Lévy, c'est le bonsaï de Malraux. C'est un Malraux bonsaï.
On dit que à l'occasion de cette... de la présence de ces brigadistes, on se dit, ah, là, les deux Espagnes existent toujours.
Non, pas au niveau des années 36, non? Mais par exemple, la conduite de la droite au pouvoir à Madrid n'est pas parler avec les brigadistes, ça signifie que la droite espagnole d'aujourd'hui, c'est héritière du franquisme, non? C'est héritière sociopolitique du franquisme. Et pour ça, c'est logique que ces droits ne reçoivent pas le brigadiste international, non? Parce que c'est la clientèle sociale de la droite espagnole d'aujourd'hui. Une partie importante de cette clientèle sociale, c'est la clientèle sociale du franquisme.
Vous parlez de la gauche, vous êtes un homme de gauche, vous travaillez pour un rebond de la gauche dans une ville qui est une belle réussite du libéralisme quand même. Hein. Barcelone, il y a de l'argent, ça se voit et ça marche.
Oui. Bon, ça marche quand tout le monde est développé, ça marche pour un secteur de la société. Que c'est le secteur qui a le pouvoir économique, le pouvoir politique, le pouvoir culturel, le langage appartient aussi à ce secteur, les médias, et
les intellectuels.
Bien sûr, les intellectuels sont de l'establishment, non, ça ne signifie pas ne reconnaître qu'il y a un secteur immense de la société, chaque fois plus grand, chaque fois plus grand, de nouvelles marginations. On peut parler de marginations au sens historique, de nouvelle théologie libérale, des justifications de la différence, des justifications de la inégalité, des justifications de la division entre le banqueur social et le perdant social. Doit convertir une nouvelle théologie. Je crois qu'il faut que les secteurs culturels, les secteurs des intellectuels, avec une certaine capacité de distance critique, pourra arriver à construire un front culturel en contre de ces conspirations de la vérité unique.
Nos intellectuels ne parlent pas comme vous.
Bon, parce que la démocratie en France existe d'après l'année 45. Ici, à l'Espagne, seulement existe d'après l'année 78, non? Et je crois que nous avons encore un petit peu d'espoir, d'espoir de changement. Pas d'énergie, d'espoir, de mémoire de la résistance. La résistance ici arrive jusqu'à l'année 77, non? Presque l'approbation de la Constitution. Et pour ça, nous avons conservé un peu la mémoire de la résistance encore. Et en France, la mémoire de la résistance, c'est une mémoire longtemps.
La messe reprend.
C'est la religion.
Merci. Merci.
Manuel Vázquez Montalbán, qui se dit subversif, qu'on dit corrosif, et évidemment c'est une jubilation que de passer un moment avec un intellectuel, un écrivain, un grand écrivain, immense écrivain, mais qui fait son boulot, et voilà. Alors évidemment, on peut se demander quel rapport il peut y avoir entre ce monsieur, Manuel Vázquez Montalbán, et une petite dame qui est à côté. Petite dame que vous avez déjà entendue, et vous avez dit, mais qui c'est la petite dame, la petite dame qui chante l'International? Eh bien, elle s'appelle Rosa Crémon. Rosa, personnellement, qu'est-ce qui vous a fait décider à partir?
Eh bien, parce que j'étais fille d'un mineur, et je venais défendre la liberté, et la fille d'un mineur, qu'est-ce qu'elle peut être? À part d'être ou anarchiste ou communiste.
Et donc vous étiez plutôt communiste qu'anarchiste?
Comme toujours.
Comme toujours.
La fille comme mon père. Hein.
Et vous étiez très jeune en 36?
J'avais 21 ans. Et quand on est venu à Albacete, parce qu'on est venu avec trois camions, des volontaires.
Il n'y avait pas de femmes, il y avait très peu de femmes.
Une autre jeune fille et moi.
Comme infirmière?
Comme infirmière et avec une ambulance.
Vous aviez une formation d'infirmière?
Non, c'est le docteur Dupont qui nous a...
Qui vous a formé?
Comme si c'était le secours de la Croix-Rouge, celui qui nous donnait des places.
Mais dites donc, c'est tous ces hommes-là, avec une jeune femme comme vous, comment ils se conduisaient?
Vraiment comme si on était tous des frères et des sœurs. Jamais personne nous a manqué le respect, ni nous non plus. C'était plutôt un frère ou une sœur, quelque chose.
Quand on vous entend, ça semble évident. Et pourtant, est-ce que vous aviez vraiment envie de donner votre sang jusqu'à la dernière goutte?
Sinon, je ne serais pas venue. Je serais restée là-bas. C'était chez bien, très bien. J'étais la plus petite de 8 enfants. Alors j'étais très bien. Mes frères et mes soeurs me tenaient comme ça.
À quel moment le premier combat, les premières...
Les premiers jours qu'on a lus dans les journaux.
Oui, mais vous, à quel moment vous avez assisté à vos premiers combats?
Ah, mon premier combat, non. Moi, j'ai assisté à un bombardement d'Albacete qui a duré 4 heures.
Vous aviez peur? Est-ce qu'on a peur en ces cas-là?
Un des frères du port qui est venu me voir, il disait, je voulais... Il venait avec les ambulances, nous apporter les blessés. Il me disait, je voulais voir simplement la figure que tu faisais.
Alors?
Comme toujours, comme maintenant.
Calme?
Calme. On a bombardé pendant 4 heures. J'étais dans un hôpital des brigades internationales et quand la bombe est tombée au milieu de la cour de l'hôpital, les carreaux sont tombés, les jeunes blessés qui étaient avec, comment on dit ça, escagliolaro, avec le plâtre jusqu'ici, commençaient à crier. Oh! Alors moi j'ai commencé à chanter la jeune garde à tout, à votre grito, comment on dit ça. À tue-tête, là.
Comment c'était?
La jeune garde, nous sommes la jeune garde.
Allez-y, allez-y.
Je n'ai plus de voix.
Ah, si.
Je n'ai plus de voix parce que j'ai accouché dans un camp de concentration, par terre, on a eu très froid, j'ai plus de voix, je ne peux plus chanter.
Même la jeune garde?
Même rien du tout. Aussitôt, j'ai la voix, comment, rauque, je ne peux plus, je ne peux plus.
Je chante en catalan.
Oui. Ah, je ne savais pas un seul mot d'espagnol, je l'ai appris en prison. 13 ans.
13 ans en prison.
13 ans en prison. Sûrement, les documents là, que j'ai, c'est mis pour avoir prêté service d'infirmière pendant la campagne de libération en zone rouge.
À quelle époque avez-vous été condamné à cette peine de prison de 13 ans?
En 42.
Et vous avez fait vos 13 ans?
Presque. Trois quarts de la première condamnation et trois quarts de la deuxième. La première condamnation, c'était 4 ans et demi. Et j'étais 4 ans et demi, l'autre, j'étais 9 ans.
Celle-là, vous la connaissez?
Oh, je connais toutes. C'est dommage que je n'ai plus de voix pour chanter.
En français, là.
Je te passe, nous sommes soignants. C'est la lutte finale. Pour nous, c'est demain. La terre, je ne peux pas, sera le genre humain. C'est la lutte. En camp de concentration, on ne me donnait rien. J'allais boire de l'eau à la fontaine pour donner le sein à ma fille.
Rosa Raymond s'appelle cette dame adorable. Alors, après 38, lorsque les brigades internationales sont parties, la répression a commencé, la répression franquiste a commencé à s'abattre sur l'Espagne. Des dizaines de milliers d'Espagnols ont été torturés, exécutés par le franquisme. Certains brigadistes sont ensuite partis dans la résistance, dans les maquis, et certains sont venus en France avec beaucoup de républicains espagnols qui ont été reçus dans les conditions qu'on sait, dans des camps pendant des années. Mais ça, c'est un autre volet de l'histoire. Pour ce qui la concerne, Rosa, elle, a tenu à rester en Espagne. Après ces années de prison et de camp, vous êtes installée en Espagne?
Oui, oui, je suis restée en Espagne. J'ai dit que j'étais espagnole, puis c'est tout.
Avec votre camarade Franco?
avec mon camarade Franco. Avec l'assassin Franco, vous direz, non? Parce qu'il en a fait assez, hein?
Ce qu'on oublie, ce qu'on sait moins, c'est que c'est ce qu'a été la répression après la guerre civile. Il y a eu une répression extrêmement violente.
40 ans. Ça a duré 40 ans. Tant qu'il n'est pas mort. 8 jours avant de mourir ou 15 jours avant de mourir, il a signé une peine de 5 jeunes hommes qu'on a fusillés.
Est-ce que vous luttiez de l'intérieur? Vous étiez ici. Est-ce que vous arriviez à lutter à...
C'est pour ça qu'on m'a pris dans l'année 42. Parce que je travaillais avec... dans la clandestinité. Alors, on a arrêté plus de 200 personnes. Dans ces personnes, j'étais là aussi. Alors, moi, j'ai toujours dit que je tenais ici, je tenais ici. Et voilà, et comme ça, comme on avait brûlé beaucoup d'églises, beaucoup de... Comme ça, j'ai pu me sauver, j'ai pu sauver ma vie.
Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez?
Pas du tout. Je ne regrette rien du tout. Je l'ai fait parce que je pensais comme ça, sinon je ne serais pas venue. Je regrette absolument rien, même pas les années de prison, parce que j'ai appris à connaître beaucoup de personnes. Il y a une camarade qui est assise là avec moi. On a fusillé presque toute sa famille. Et elles étaient 3 sœurs dans la prison avec moi. Elle est là.
Donc vous vous êtes fait des amis, quoi, en somme?
Oh oui, j'ai beaucoup d'amis. Comme j'étais leur infirmière, même dans la prison, alors...
Et vous êtes toujours restée au Parti communiste?
Toujours.
Toujours aujourd'hui?
Toujours.
Malgré Staline, malgré tout ça, vous êtes resté fidèle au Parti communiste?
Moi, j'ai rien à voir avec Staline. Moi, j'ai à voir avec ma conscience, c'est tout. Est-ce qu'elle a... Comment on dit ça? L'idée du communisme. Elle est très bonne, puisque même le curé de la prison, il me disait, mais vous faites beaucoup plus que les 10 mandements de commandements là du bon Dieu. Alors... Et vous les faites sans penser à rien, ni avoir de récompense, c'est beaucoup mieux.
Maintenant, à 5 heures du matin à Paris, il faut sortir, rejoindre le bus tout de suite.
Vous êtes fier de votre vie?
Oui, oui, moi je suis très fier. Je suis fier d'avoir été honnête toute ma vie, depuis que je suis née. C'est ce que j'ai appris chez moi et j'ai continué à être comme ça.
Les cloches des bêtes peuvent sauver la révolte, et l'organisation seulement peut sauver la révolution.
C'était Là-bas si j'y suis de Daniel Mermet. Une pensée pour Manuel Vasquez Montalban qui nous a quitté le 18 octobre dernier. Traduction Christina Figueras, à la technique Philippe Duclos et Sandrine Laurent. Réalisation Antoine Chao, assisté de Koy Nguyen. Chef du répondeur Christophe Imbert. Si vous souhaitez réagir à cette émission, vous avez le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. À noter l'exposition Les Républicains Espagnols dans les Hautes-Pyrénées, de l'exil à l'intégration, présentée à l'abbaye de l'Escaladieu à Lannemezan ces jours-ci. Une expo basée sur des témoignages de républicains installés désormais dans les Hautes-Pyrénées. Demain, 17h, quatrième volet de cette semaine consacrée aux brigades internationales.